On annonçait partout dans le pays que la misère allait s'abattre sur le peuple. Depuis de nombreuses années, la pluie ne tombait plus. La température augmentait à tel point qu'aucune récolte n'était vraiment intéressante. Le jeune seigneur de Camargue et ses nobles amis étaient tellement occupés à faire fructifier leurs privilèges qu'ils augmentaient les impôts, les taxes et les gabelles au lieu d'aider les plus pauvres. Et les gens, bien sûr, allaient mourir de faim. Le petit peuple camarguais commençait à se rebeller. Le seigneur, un homme jeune certes, mais qui, pensait-on, était d'une redoutable intelligence, donna l'ordre d'enfermer tous les camarguais. Et comme les prisons étaient déjà bien pleines, il eut l'idée originale d'enfermer les gens chez eux, surtout les plus vieux, qui ne pouvaient se rendre utiles et ne faisaient après tout que manger la part du pain des autres. Les vieux devaient donc rester enfermés dans leur maison de vieux, et les jeunes, enfermés aussi, mais dans leur maison de jeunes, avaient interdiction de les rencontrer. Voilà qui rendait tout le monde bien triste. Or, dans cette Camargue, vivait un jeune homme nommé Bruno, qui ne voulait à aucun prix se priver de son père. Le vieil homme fut ému par l'amour de son fils. Il réfléchit, puis lui conseilla de placer dans un coin de la cour un grand tonneau. Les gendarmes n'y feraient pas attention. Et ce serait pour lui une très bonne cachette. Bruno se réjouit à cette idée, et dès le lendemain, il installa dans la cour, à l'ombre du figuier, un grand tonneau rempli de paille pour que son père pût y dormir. Sur le haut du tonneau, ils aménagèrent un trou par lequel il lui passerait de la nourriture et qui lui permettrait de sortir à la tombée de la nuit pour marcher et respirer de l'air frais. Ainsi vécurent-ils tranquilles, ensemble, durant quelque temps. Mais de nouveaux soucis vinrent tourmenter le jeune seigneur. Enfant, à l'école, il était tombé amoureux de sa maîtresse et avait fini par l'épouser. Après tout, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il se rendait bien compte qu'il n'aurait pas d'enfant pour lui succéder. Sa femme était trop âgée. Mais par chance, elle avait une fille d'un premier mariage, la belle Marion. « Je dois la marier, se dit le seigneur, mais je veux la donner au jeune homme le plus sage de la région, afin qu'après moi, il gouverne avec intelligence et dans l'intérêt de mes nobles amis. » C'est ainsi que peu après, il invita dans son château tous les jeunes hommes de Camargue et leur dit « Je vous ai préparé trois tâches difficiles. Seul le plus sage d'entre vous sera capable de les mener à bien. Et c'est lui qui me succédera sur le trône. Que ceux qui veulent tenter leur chance viennent demain, avant l'aube, au pied de la tour Carbonnière. Celui qui apercevra le premier le lever du soleil sera le vainqueur. » Les jeunes hommes se dispersèrent et, dès la tombée de la nuit, Bruno se précipita vers le tonneau pour confier à son père ce que le seigneur avait décidé. « Ma foi, c'est très facile, fiston, » répondit le vieil homme avec un sourire. « Quand tu seras au pied de la tour Carbonnière, chacun regardera vers l'est, où le soleil se lève. Toi, tu te retourneras et tu regarderas à l'ouest le haut de la tour. C'est là que se reflèteront les premiers rayons de soleil, bien avant que celui-ci n'apparaisse à l'horizon. » Et il en fut ainsi. Alors que tous les jeunes gens regardaient vers l'est, Bruno se tourna dans la direction opposée Et bientôt, sur les créneaux de la tour Carbonnière, brilla le premier rayon de soleil, alors qu'à l'est régnait encore l'obscurité. Bruno s'écria aussitôt joyeusement : « Regardez, sire, le soleil se lève !» Le seigneur fit un sourire de satisfaction, donna une tape amicale sur l'épaule du jeune homme et lui dit : « Ma foi, tu es bien rusé. Nous verrons comment tu t'acquitteras de la deuxième tâche. » Se tournant alors vers les autres jeunes gens, il déclara : « Celui d'entre vous qui arrivera demain au château avant midi, ni pieds nus, ni chaussés, gagnera la seconde épreuve. » Les prétendants repartirent, l'air consterné. De nouveau, Bruno courut vers son père et lui révéla avec émotion comment il avait réussi la première épreuve et celle qu'il attendait à présent. Cette fois encore, le vieil homme n'hésita pas très longtemps. « Ce ne sera peut-être pas si difficile, mon fils. Mets à tes pieds mes vieilles sandales. Attache-les solidement et coupe ensuite la semelle. Ainsi, tu seras ni pieds nus, ni chaussés, n'est-ce pas ?» Le lendemain à midi, les jeunes gens arrivèrent les uns après les autres au château. Chaussés des façons les plus étranges. Certains portaient des bas, d'autres des chiffons, d'autres encore des fers à cheval. C'était un spectacle étonnant et tous les nobles étaient morts de rire. Bruno arriva le dernier. Il s'avança vers le seigneur avec des sandales, s'inclina profondément et s'assit. Puis il leva les deux jambes et montra ses plantes de pieds nues. Aussitôt, tout le monde l'applaudit et le seigneur dit en riant : « Tu es vraiment très malin. » Mais à présent, la troisième épreuve, qui est peut-être la plus difficile, vous attend encore. Je veux que vous veniez demain avec un chapeau orné de la fleur la plus belle, mais surtout la plus utile. » Le père de Bruno l'attendait avec impatience. Quand il entendit le récit de la journée, il se réjouit de voir qu'il n'avait pas sacrifié ses sandales en vain. Mais Bruno se faisait beaucoup de soucis pour la troisième épreuve. « Attends, mon garçon, » l'interrompit le vieil homme. « A-t-il dit « la plus belle fleur » ou « la plus utile » ?»« Je pense qu'il s'agit surtout de la plus utile, » fit Bruno. « Oui, oui, c'est bien cela. » « Alors, c'est tout à fait clair, » conclut le père avec soulagement. « La fleur la plus utile en Camargue est bien sûr celle de l'épiderie. Cueille-en un demain, mets-le sur ton chapeau. Rien n'est aussi beau et en même temps aussi utile que les épis de riz dans les rizières. » Ce sage conseil réjouit le jeune homme. Le lendemain, il se rendit au château avec un bel épi planté sur son chapeau. Les autres prétendants avaient orné les leurs de fleurs multicolores. Et lorsqu'ils aperçurent Bruno, ils se moquèrent de lui. « Regardez, c'est un épi, pas une fleur !» Mais le seigneur s'avança vers Bruno pour constater que sur l'épi, de minuscules fleurs au parfum intense annonçaient la naissance d'autant de grains de riz. Là, cette fois encore, tu ne m'as pas déçu. La fleur que tu as portée est en effet la plus utile du monde. Oui,
C'est bien ce que me disait hier mon vieux père, lâcha Bruno.
Le seigneur sursauta et fit d'un ton sévère. Ah ! J'aurais dû deviner tout de suite que ces idées concernant le lever du soleil, les sandales ou les pideries ne pouvaient venir de toi. Où aurais-tu trouvé tant d'expérience et de sagesse ? Dis-moi alors, où caches-tu ton père ?
Bruno tomba aux genoux du seigneur et lui dit toute la vérité. Celui-ci demeura quelques instants silencieux. Au fond, il avait un peu honte de s'être montré aussi impitoyable. Enfin, il ordonna à Bruno de se relever et déclara « Je ne peux punir ton amour pour ton père. Je reconnais maintenant que les anciens ont une expérience et une sagesse que ne possède aucun jeune. Amène ton père au château. Ses conseils me seront sans doute précieux. » Bruno obéit avec joie et le vieux père échangea bien volontiers son tonneau rempli de paille contre une belle chambre au château. Il devint conseiller du seigneur et plus tard conseiller de Bruno qui succéda au seigneur avec sa femme la belle Marion. Nobles ou pauvres, jeunes ou vieux, les habitants de Camargue vécurent enfin dans la paix et le bonheur.
Thank you. «